France Culture.
Le journal Julie Paco.
Bonjour à tous. La crainte d'une nouvelle catastrophe à Mayotte, où l'alerte rouge devrait être déclenchée ce soir en raison d'un nouveau cyclone, moins d'un mois après le passage du cyclone Chido. Jusqu'où ira l'escalade entre Paris et Alger après le renvoi sur le sol français d'un influenceur expulsé par la France? Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau parle d'une humiliation, tandis que le Quai d'Orsay menace de riposter. Une escalade qui ne surprend guère l'opposition algérienne réfugiée dans l'Hexagone. Jusqu'où iront Elon Musk et Mark Zuckerberg dans leur offensive idéologique? Le patron de Meta, qui regroupe Facebook et Instagram, veut cesser les activités de fact-checking aux États-Unis. L'ONU et l'Union européenne s'en inquiètent, la ministre chargée du numérique aussi. Clara Chapaz est l'invitée de ce journal. Mayotte, de nouveau menacée par un cyclone. Moins d'un mois après le passage de Chido qui a dévasté l'archipel, l'alerte cyclonique orange est de nouveau déclenchée depuis ce matin, avant probablement l'alerte rouge ce soir, en prévision du passage d'un nouveau cyclone baptisé Dikeledi, qui devrait frôler le sud de l'archipel. Béatrice Duguay.
La trajectoire de Dikeledi, voilà ce que les services météo de Mayotte surveillent de très près depuis 48 heures. Après sa traversée de Madagascar dans la journée, la tempête tropicale a tendance à s'incurver, à se rapprocher de Mayotte. Passage prévu encore hier à 140 km au sud de l'île. Les prévisions le ramènent à présent à environ 75 km au sud pour demain, nous dit Floriane Benassen, la responsable du centre météo de Mayotte.
Cette distance conditionne pas mal les impacts pour notre département. Dans les paramètres qui sont les plus impactants, ça va être les pluies intenses, entre 150 et 200 mm de pluie en 6 heures, donc c'est un cumul assez conséquent. Notamment sur un territoire qui est très fragilisé comme Mayotte, où on a du coup un sol assez instable lié au fait que la végétation n'est plus en place, et donc on pressent quand même des glissements de terrain sur le département.
Ajouter des rafales de 90 à 120 km/h, notamment sur le sud de l'île, plutôt moins touché jusque-là, et un risque de grosses vagues de submersion marine au sud et à l'ouest. Il faut dans ces conditions remettre tout le monde à l'abri pour le préfet François-Xavier Bieuville.
On est en mesure d'ouvrir un certain nombre de choses, à l'exception évidemment des écoles qui auront été très touchées, qui de toute façon n'auraient pas été réouvertes pour la rentrée. Et puis la responsabilité de tout le monde, c'est aussi de se dire que le système d'entraide qui a fonctionné, moi j'ai eu beaucoup de témoignages de proches collaborateurs, et donc il faut compter aussi sur ça. Se préparer aussi individuellement en pensant aux autres.
Le préfet qui demande à tous les maires de l'île de rouvrir leur centre d'hébergement d'urgence, école, gymnase, salle polyvalente. Pour tout le monde, une vie est une vie, rappelle-t-il.
Béatrice Duguay à Mayotte pour France Culture. La famille Le Pen au grand complet cet après-midi à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan pour l'inhumation du menhir. Jean-Marie Le Pen décédé mardi dernier à l'âge de 96 ans. Une cérémonie dans la plus stricte intimité au sein de la petite église Saint-Joseph avant une autre cérémonie religieuse qui se tiendra jeudi prochain à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce en France. Celui qui estimait qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres, entretenait un rapport plus couleux avec l'église catholique, Antoine Marette.
Nous avons rompu l'église et moi quand j'avais 16 ans, écrit Jean-Marie Le Pen dans ses mémoires. L'adolescent qu'il est alors a grandi dans une Bretagne très catholique avec l'éducation qui va avec, mais il s'accommode mal de la discipline imposée par les prêtres de son collège dont il est renvoyé. À partir des années 80, ces idées sont dénoncées par l'épiscopat français. À cette époque, les évêques français n'hésitent pas à s'opposer ouvertement à l'extrême droite. En 85, Monseigneur de Courtrai, alors archevêque de Lyon, déclare « Nous en avons assez des idéologies qui justifient la haine contre les immigrés et d'un parti dont les thèses sont incompatibles avec l'enseignement de l'Église ». 6 ans plus tard, l'archevêque de Poitiers, Monseigneur Rosier, estime, je cite, que l'utilisation des valeurs religieuses pour étayer les propositions du Front National est une escroquerie. Mais l'ennemi juré de Jean-Marie Le Pen au sein de l'Église, c'est Monseigneur Lustiger. En 1996, l'archevêque de Paris réagit sur France Info au propos de Jean-Marie Le Pen sur l'inégalité des races.
La foi chrétienne, comme le catéchisme de l'Église catholique, répète, comme toute la tradition biblique, que tous les hommes sont égaux en dignité parce que tous sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
En 2002, les évêques français appellent à faire barrage à l'extrême droite au second tour de la présidentielle. Jean-Marie Le Pen n'est alors plus pratiquant depuis des décennies, mais il se revendique croyant. Cela fait bien longtemps qu'il s'est rapproché des milieux traditionalistes. C'est d'ailleurs l'abbé Laguéry, ancien prêtre à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, qui lui a donné les derniers sacrements quelques semaines avant son décès.
Un rassemblement a lieu cet après-midi à Paris contre la détention de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien détenu depuis novembre dernier par le régime algérien pour atteinte à la sûreté de l'État. Un rassemblement qui intervient dans une séquence de tensions exacerbées entre la France et l'Algérie. Cette semaine, une série d'influenceurs algériens appelant sur TikTok à commettre des attentats sur le sol français ont été arrêtés. L'un d'entre eux expulsé vers l'Algérie a été renvoyé vers la France. Alors si l'Algérie continue cette escalade, la France devra riposter, prévient le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Mais cette escalade ne surprend pas les membres de l'opposition algérienne réfugiés en France, dont le journaliste d'investigation Abdou Semar, condamné à mort en Algérie, est réfugié politique depuis octobre 2019.
Depuis 2020, il a adopté une politique ultra favorable au régime de Tebboune. Pendant ce temps-là, de 2020 à 2024, le régime algérien menait des opérations sur le sol français. La preuve, moi-même, j'ai été agressé. La police judiciaire française a fait son travail, tout a été démontré, et je ne suis pas le seul en opposant qui a été agressé. L'affaire Boualem Sansal s'inscrit dans le divorce qui a été prononcé entre le régime Tebboune et Emmanuel Macron fin juillet 2024. Et la France décide de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Donc, Macron n'a pas tenu sa parole vis-à-vis de Tebboune et des dirigeants algériens. Les Algériens sont choqués. Boualem Sansal, pour eux, c'est une occasion de faire du chantage à la France. Il faudra qu'un bras de fer dure plusieurs mois avec des mesures encore plus sévères pour rééquilibrer les rapports de force. C'est la question des visas. En visant tout particulièrement les responsables algériens et leurs familles, leur entourage, les visas juste, c'est une arme fatale.
Propos recueillis par Cécile de Kervazoué, une influenceuse franco-algérienne mise en cause cette semaine, a été déférée. Elle sera convoquée au tribunal le 18 mars prochain, annonce à l'instant son avocat. De nouvelles règles pour les sites pornographiques. À partir d'aujourd'hui, ils doivent s'assurer que leurs utilisateurs sont bien majeurs, en ayant recours à des outils techniques de vérification d'âge, comme le réclame l'ARCOM, le régulateur du numérique qui a dorénavant le pouvoir de sanctionner, voire de bloquer l'accès aux plateformes qui ne se plient pas à cette nouvelle règle. Bonjour Clara Chapaz.
Bonjour, bonjour Julie Paco, bonjour à tous les auditeurs de France Culture.
Ministre délégué chargé de l'intelligence artificielle et du numérique, merci d'être avec nous en direct sur France Culture. Alors cette nouvelle obligation ne vise ne vise pour l'instant que les sites basés en France et en dehors de l'Union européenne. Pour quelles raisons les sites basés dans l'Union ne sont pas encore concernés ?
Avant tout, c'est un jour vraiment historique pour la protection de l'enfance en ligne en France et je veux vraiment le souligner. Vous l'avez dit, les sites devront mettre en place des solutions techniques de vérification d'âge et l'ARCOM, dès aujourd'hui, les met en demeure s'ils ne le font pas pour un certain nombre de sites conséquents. C'est un garçon sur deux de 12 ans qui, dès 12 ans, consomment de la pornographie en ligne et 15% d'entre eux le font même sans vraiment le vouloir. Ils tombent sur ce type de contenu. Donc, ce qu'il se met en place aujourd'hui, c'est la capacité pour un site, comme si un garçon allait dans un sex shop demain, de pouvoir contrôler qu'il a bien l'âge légal pour consommer ce type de contenu. Les plateformes que vous mentionnez, celles qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui sont dans l'Union européenne aujourd'hui, elles sont simplement en sursis. Ce n'est pas l'Europe qui est en retard sur cette question, c'est la France qui est vraiment en avance et c'est une histoire de quelques mois. Dans quelques mois, toutes seront concernées et on aura la capacité de s'assurer que ce type de contenu n'est pas à disposition des mineurs.
Mais alors, on a vu justement ces derniers mois comment ces géants de l'industrie pornographique, on pense notamment à Pornhub basé à Chypre, multipliaient les recours juridiques pour empêcher les décisions de blocage. Pensez-vous pas que ça va être c'est ce qui va se passer finalement dans les prochains mois ?
Alors, elles peuvent multiplier les recours, ces plateformes. Moi, je pense quand même qu'il faut repartir un peu de la base. La façon dont on consomme des contenus en ligne doit, en fait, respecter un certain nombre de règles qui sont les mêmes que les règles hors ligne. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas les mêmes choses. Et le choix de chacun, chaque adulte, de regarder des contenus pornographiques ne doit pas empiéter sur la protection de nos jeunes. Une plateforme qui, aujourd'hui, ne comprend pas ça ou est contre ça, il va falloir vraiment qu'elle nous explique pourquoi. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser ce fléau continuer et on a l'arsenal législatif pour pouvoir changer les choses. L'ARCOM qui mettra donc en demeure les sites à partir d'aujourd'hui peut aller, comme vous l'avez dit en introduction, jusqu'au bannissement de ces sites. On le fera et il n'y a pas de voie de sortie. Ces plateformes sont en sursis mais dans quelques mois tout le monde sera concerné et la protection de nos jeunes sera vraiment aboutie sur cette question.
L'autre actualité, Clara Chapa, c'est l'annonce faite par Mark Zuckerberg cette semaine de cesser les activités de fact-checking du groupe Meta qui rassemble Facebook, Instagram, WhatsApp. On le rappelle, cesser cette activité de fact-checking aux États-Unis pour l'instant. Mark Zuckerberg est le propriétaire de X, Elon Musk, qui accuse les lois européennes de censurer la liberté d'expression. Est-ce qu'on a les moyens en Europe de faire face à ces attaques des géants du numérique proches de Donald Trump?
Écoutez, c'est un peu la même question que la discussion précédente. On a un espace numérique sur lequel on a pris une réglementation très ambitieuse, notamment à l'échelle de l'Union européenne, qui nous permet de garantir que les libertés de chacun sont bien régies de la même façon en ligne qu'hors ligne. Sur la question que vous mentionnez, la façon de modérer le contenu. Pourquoi c'est important de modérer le contenu? Parce qu'aujourd'hui, l'espace numérique est la cible d'un certain nombre de mésinformations, d'un certain nombre d'ingérences étrangères. On pense à des phénomènes comme celui des étoiles de David qui a été amplifié par des groupes étrangers. Et il faut que ces plateformes puissent nous dire la façon dont on modère le contenu nous garantit la qualité de l'information. C'est ça qui est important. Ce qui est important pour moi en tant que ministre du numérique, c'est pas de décider d'un point de vue technique si telle ou telle solution est la bonne. Ça, c'est pas mon travail. Mais mon travail, c'est de m'assurer que ces plateformes respectent nos règles et nous garantissent qu'elles ont des outils qui peuvent modérer le contenu et s'assurer de la qualité de l'information.
Merci beaucoup Clara Chappaz. Je rappelle que vous êtes ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, invitée du journal de France Culture. Merci également à Aline Biette pour la préparation. Des feux et des critiques aux États-Unis, alors que les incendies continuent de ravager Los Angeles et ses environs, même si le vent qui attise les flammes a commencé à faiblir hier, eh bien les critiques se multiplient concernant la préparation et la réponse des autorités. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, accusé par Donald Trump d'être responsable des incendies en ayant refusé de signer une déclaration sur la restauration de l'eau pour protéger un poisson, a demandé un examen indépendant des services de distribution d'eau de la ville et il a également répondu au président américain élu, Élise Delève.
Et c'est devant un quartier totalement détruit par les flammes que Gavin Newsom interpelle Donald Trump.
Faites ce qui est juste, c'est une urgence. On peut continuer encore longtemps comme ça. Nous avons des opinions différentes, des valeurs différentes, et c'est un combat équitable.
Équitable, mais pas maintenant, poursuit le gouverneur. Ces frictions n'ont pas leur place alors que 12 000 pompiers sont sur le front et que la situation est loin d'être maîtrisée. Gavin Newsom dit qu'il ne veut pas politiser une catastrophe naturelle et appelle Trump à faire de même.
Tournons la page. Je veux que le prochain président vienne et comprenne l'ampleur des événements qui ont touché les Américains qui habitent en Californie. Ça ne m'intéresse pas de politiser un événement comme celui-là. Cela le rendrait banal et inhumain. J'aimerais que les gens se concentrent sur la collaboration entre l'administration à Washington et l'État de Californie pour aider une communauté qui a été totalement ravagée.
Au moins 150 000 habitants ont reçu un ordre d'évacuation. Le coût de ces incendies se compte en milliards, selon la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence, une agence sur laquelle Newsom compte pour guérir la Californie et que Trump prend souvent pour cible dans sa guerre de l'information.
Le Premier ministre libanais Najib Mikati en visite à Damas aujourd'hui. C'est la première visite officielle d'un chef de gouvernement libanais dans le pays depuis 2011 et le déclenchement du conflit en Syrie. Où plus d'un mois après la chute de Bachar el-Assad, les rebelles continuent de découvrir les secrets du régime et tous ceux qui y ont collaboré durant des années dans l'ombre. Notre correspondant Arthur Saradin les a suivis dans leurs recherches au sud du pays.
Mamdouh, toujours son arme à la main, fait partie de ces rebelles qui ont combattu dans la ville de Soueida.
Ici, le régime nous a beaucoup résisté. Ils se sont battus pendant au moins 6 heures.
Il pointe un bâtiment, celui des renseignements militaires, un labyrinthe de pièces jonché de documents administratifs. Ce que Mamdouh est en train de lire, ce sont les communications officielles du régime. Le document qu'il tient entre ses mains invite à augmenter les salaires des militaires pour ne pas qu'ils se joignent au mouvement de protestation qui secoue la ville. Avec d'autres rebelles venus éplucher les documents, Mamdouh tombe sur un registre.
C'est le nom de tous ceux qui avaient une carte donnée par le régime, qui leur permettait de passer tous les checkpoints militaires sans être interrogés. Il n'y a que des noms civils.
En réalité, des dizaines d'informateurs, dont il reconnaît certains noms, ici les proches d'un opposant de la région.
Ah, la nièce de ce type était une informatrice pour le régime.
Il y a aussi, dans de grandes enveloppes, des milliers de pages, des dossiers d'enquête sur des milliers d'habitants de la localité, celui d'une jeune femme ici, par exemple, jugée suspecte, simplement parce qu'elle s'était mise au yoga. Pour la seule ville de Soueida, les documents de renseignement se comptent en millions, Dans la plupart des bâtiments, le régime a tenté de se débarrasser des preuves en incendiant les archives.
Arthur Saradin, la météo avec des pluies attendues cet après-midi sur le sud-ouest du pays et sur la Corse. Le temps restera plus sec ailleurs avec le retour du froid sur la moitié nord. Comptez 1 à 4 degrés du centre au nord-est du pays, 11 à 14 degrés en moyenne sur la moitié sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Axel Dubois.